Et vous l'avez entendu, Corinne Lepage est notre invitée. Bonjour madame.
Bonjour.
Ancienne députée européenne, ancienne ministre de l'Environnement, avocate spécialisée dans la question environnementale. Vous êtes également la présidente de CAP21, le Rassemblement citoyen. Vous aviez écrit en 2015 un livre intitulé « Les mains propres, plaidoyer pour une société civile au pouvoir ». Vous renouvelez, vous complétez, vous poursuivez aujourd'hui avec « À bout de confiance de la morale en politique » qui paraît chez Autrement, dont nous parlerons tout à l'heure. Nous allons commencer avec la politique écologique du gouvernement, si vous le voulez bien. Décision repoussée sur le glyphosate, report de l'échéance promise par Emmanuel Macron en matière nucléaire, ouverture de la COP23 à Bonn, rapport alarmant sur le réchauffement climatique. Cette semaine a été marquée par des annonces environnementales contradictoires. Comment qualifieriez-vous cette politique écologique du gouvernement aujourd'hui ?
Décevante.
Au moins c'est clair.
Voilà. Décevante. Alors, le glyphosate, c'est plutôt à mettre à l'actif, c'est pas au passif. Parce que la proposition de la Commission était inacceptable. Le gouvernement français, avec 8 autres États, a tenu bon. Et donc, il n'y a pas eu de décision.
Oui, ils n'ont pas réussi à s'accorder quand même, je dis, là, sur un renouvellement de la licence du glyphosate pour 5 ans. La France demandait 3 ans.
Oui, moi, je suis pour une interdiction immédiate à effet différé.
Donc, en quoi est-ce une victoire ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre encore.
C'est une victoire dans la mesure où, s'il y avait eu un accord, ça aurait été sur la proposition de la Commission, c'est-à-dire 5 ans. Bon, moi, je suis pour une interdiction parce que ce produit, et surtout tout ce qui va autour, parce que tout le monde parle glyphosate, mais en fait, largement, c'est le Roundup. Il faut savoir qu'il y a dans le Roundup des produits adjuvants, si vous voulez, comme pour la cigarette. Imaginez une cigarette. La nicotine, c'est le glyphosate. Sauf que c'est pas la nicotine qui est le problème principal de la cigarette, c'est tout ce qu'il y a autour pour renforcer l'effet de la nicotine et l'accoutumance. C'est pareil pour le glyphosate. En fait, ce qu'on met autour, ça multiplie par 100, voire par 1000 l'effet du glyphosate.
Et là, ça n'est pas seulement Corinne Lepage qui le dit, ce sont les études internationales, scientifiques.
Ça aurait aucun intérêt. Je ne suis pas scientifique, je ne suis que juriste. Je dis simplement ce qui est. Donc, il faut interdire ce produit et ces produits, parce que le dicamba que Monsanto utilise maintenant aux États-Unis est encore bien pire, et non pas proposer aux agriculteurs un autre produit chimique, mais leur proposer d'autres méthodes qui existent.
Parce qu'on ça existe. On n'en parle pas assez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Eh bien, si vous voulez, il y a d'abord des systèmes bio, c'est-à-dire naturels, de lutte contre certains insectes ou certaines mauvaises herbes. Ensuite, vous avez maintenant les mini-robots qui sont utilisés et qui permettent de faire du désherbage sans avoir l'obligation de se casser le dos. Voilà. Et puis, il y a surtout d'autres méthodes, je dirais, autour de l'agroécologie, hein, tout simplement, qu'avait du reste poussé Monsieur Le Foll et qui sont très peu mises en place. Donc,
la question très très naïve du coup, Corinne Lepage, pourquoi les politiques n'arrivent-ils pas à s'entendre sur ce qui est admis, c'est-à-dire que c'est dangereux, donc il faut l'interdire, et que les politiques alternatives existent. Pourquoi on n'y arrive pas ?
Parce que je pense que, d'une part, il y a, en tout cas en France, une pression extrêmement forte de la part non seulement de la FNSEA, mais on ne le dit pas assez, des coopératives. Parce que les coopératives gagnent beaucoup d'argent en vendant ces produits chimiques, avec une marge qui va jusqu'à 30%. Hein, il faut se rendre compte de cela. Donc, si vous voulez, économiquement, elles n'y ont aucun intérêt. Et donc, il y a une très forte pression du monde agricole sur le monde politique. Et puis, à Bruxelles, je vais vous dire, pour y avoir passé 5 ans, Monsanto et ses camarades ont des moyens de pression extrêmement forts à l'égard des pouvoirs publics. C'est du lobbying poussé à l'extrême.
Pression des lobbies que vous mettriez aussi au compte du report, de l'annonce du report mardi par Nicolas Hulot, après 2025, du passage de 75 à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité.
C'est un autre genre. J'avais écrit il y a quelques années un bouquin qui s'appelait « L'État nucléaire ». Dont on a très peu parlé, parce qu'il faut savoir que EDF est un très grand annonceur dans la presse française quand même. Donc les journaux sont pas très enclins à aller à l'encontre du désir d'un grand annonceur. Vous savez, cette reculade de Nicolas Hulot qui est justifiée comme il dit la vérité. C'est vrai que ça va être très difficile à atteindre. Là-dessus, il a raison. Mais je ferai un parallèle. Nous savons tous que les 2 degrés, c'est très difficile à atteindre, voire même impossible. Je pense que c'est plus facile de faire 50% de nucléaire en France en 2025 que d'atteindre les 2 degrés.
C'est dire.
C'est dire. Bon. Qu'est-ce qu'on dirait Si le gouvernement français disait tout d'un coup, bah écoutez, on s'est rendu compte que le 2 degrés, on ne peut pas l'atteindre, donc on va dire qu'on va viser 3 degrés. Les gens diraient non, mais ce n'est pas possible.
Non, mais là, il ne dit pas ça, Nicolas Hulot. Il le reporte après 2025, oui, mais 2030, 2035.
Oui, mais j'entends bien, mais si vous
il
voulez...
Il ne recule pas sur... il reporte oui. la date, disons.
Oui, mais attendez. Nos centres, qu'est-ce que ça signifie? Nos centrales, elles ont 40 ans, voire plus... Et en 2025, elles auront 45, voire 50 ans. Reporté à 2035, ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire soit on va faire vivre des centrales très vieilles, soit on va en construire de nouvelles. Et ça, personne n'en parle. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes par exemple avec cette espèce de tabou de Fessenheim. Bon, pour être tout à fait honnête, je défends... professionnellement, les gens qui ne veulent pas de Fessenheim. Donc on peut dire, vous êtes partial. C'est pour ça que je suis transparente. Bon. Fessenheim, il y a deux réacteurs. Ils sont tous les deux à l'arrêt. Un depuis 6 mois, un depuis plus d'un an. Personne ne le dit d'abord. Donc en fait, Fessenheim ne marche pas en l'état actuel des choses. Et ça serait un problème absolu de le constater et de faire en sorte que ce soit définitif. Donc, vous voyez bien qu'on a un vrai problème, si je puis dire, en France, avec le traitement du sujet nucléaire. Pourquoi est-ce que je dis Fessenheim? Parce que c'est la plus vieille. Mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, on a énormément de réacteurs, c'est difficile de savoir le nombre, certains disent jusqu'à 20, qui sont arrêtés. C'est pour ça, du reste, que RTE dit, mais cet hiver, on va peut-être avoir des problèmes d'alimentation. C'est pas parce que les centrales au charbon, on va les fermer, il faut pas se foutre du monde, c'est pas pour ça. C'est parce qu'on a 20 réacteurs à l'arrêt. Donc, dire qu'on prolonge jusqu'en 2035, implicitement, ça veut dire soit on va faire vivre des centrales très vieilles, soit on va en construire de nouvelles.
Oui, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire cela si c'est le cas, si c'est du réalisme, comme le dit Nicolas Hulot, qui se défend en parlant de la prise en considération indispensable de la faisabilité? Ne vaut-il mieux pas dire on reporte si on sait que de toute façon on n'y arrivera pas en 2025?
Mais c'est comme pour les deux degrés.
L'objectif reste le même.
Partir. Non. C'est pas pareil, parce que si vous êtes à 50% en 2025, ça veut dire que vous pouvez être à 30% en 2035. Si vous êtes à 25%, à 50% en 2035, ça veut dire que vous allez traîner sur quasiment tout le 21e siècle, parce qu'il y aura de nouvelles centrales. Du nucléaire, c'est pas du tout le même objectif.
Bon, Corinne Lepage, vous avez commencé en répondant décevante à la question comment qualifier la politique écologique du gouvernement. Donc on entend bien que sur ce volet nucléaire, vous êtes déçue. Est-ce que vous êtes aussi déçue par ce qui se passe en matière climatique? Et si vous l'êtes, de quelle façon et pour quelle raison?
Alors, en matière climatique, ce qui est très bien, c'est que le président de la République a fait de l'affaire climatique un véritable enjeu diplomatique. Ça, c'est vraiment très important et c'est à mettre à l'actif. Bon. Ça n'empêche pas qu'à l'ouverture de Bonn, la COP23, nous ayons eu le prix Pinocchio, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin globalement c'est ça, c'est-à-dire le prix du plus mauvais élève en matière climatique à cause de notre choix nucléaire. Donc il ne faut pas croire qu'au niveau international, on trouve que tout ce que nous faisons est formidable. En fait, si l'affirmation diplomatique est parfaite, et j'ai absolument rien à dire sauf à m'en féliciter, en revanche, sur le concret, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup. Alors, vous allez me dire, il y a la loi sur les hydrocarbures.
Par exemple.
Bon, ça, c'est bien. Bon. C'est bien, sauf que, un, elle est en train de se faire mettre en loc au Sénat. Et deux, le projet même qui a été voté par l'Assemblée nationale est très en retrait par rapport à ce que proposait Nicolas Hulot, de telle sorte qu'en 2042, on continuera encore à avoir des contrats d'exploitation en cours d'activité. Puis il y a tout l'outre-mer, parce que vous savez comme moi qu'en France, on n'a pas, enfin sur le territoire métropolitain, excusez-moi, on peut pas dire qu'on regorge de pétrole. Vous vous souvenez, enfin non, vous pouvez pas vous souvenir, vous êtes trop jeune. Mais en 73, c'était on n'a pas de pétrole, on a des idées. Bon, ben ça n'a pas changé, on n'a toujours pas de pétrole, mais on en a en outre-mer. L'outre-mer est sorti du sujet, et c'est juste là où ça se passe. C'est dommage. Donc, sur l'explosion, si je puis dire, du développement du renouvelable, bon, c'est pas encore absolument génial. Parce qu'en France, il faut quand même dire les choses comme elles sont, puisqu'on est dans la... Regardons la réalité en face. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'il faut développer le renouvelable, ça fait 10 ans qu'on le fait pas. Bon. Et là, je n'ai pas vu de révolution. depuis. Alors, je sais bien qu'il y a un groupe éolien qui s'est installé pour essayer de faciliter la législation. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'ont fait les Allemands de manière formidable, c'est-à-dire développer massivement ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle et collective?
Pourquoi on ne le fait pas?
Parce que EDF veut pas.
Oh, ça suffit pas.
Mais bien sûr que si.
Si les politiques voulaient réellement, ils le feraient.
Mais attendez...
N'en déplaise à EDF.
Oui, mais enfin, EDF est extrêmement puissant et très bien représenté au sein du gouvernement.
Qu'est-ce que vous attendez de la COP23 dans ces conditions? Sachant en plus que selon un rapport de l'ONU, il existe très récent, il existe un écart catastrophique aujourd'hui, c'est le mot du rapport, hein, entre les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris. L'accord de Paris, signé il y a 2 ans, je le rappelle, est jugé historique.
Oui, sauf que, vous avez raison, il est historique parce qu'il y a eu un accord et ça c'est formidable. Et c'est à mettre
à l'acquis. Si l'accord n'est suivi par aucun effet...
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que cet accord nous met sur une trajectoire de 3,5 degrés, pas de 2 degrés. Donc vous vous rendez compte qu'on est sur une trajectoire de 3,5 degrés qui n'est même pas respectée.
Bon. D'où ma question.
Eh bien, je vais vous dire, la réponse, je pense qu'elle est dans les mains de la société civile. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde et qui est formidable. Ça s'appelle la justice climatique. C'est quoi? Eh bien, ce sont des citoyens qui ont décidé de poursuivre leurs états respectifs parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'épidémie, si je puis dire, a commencé aux Pays-Bas il y a 3 ans avec une affaire qui s'appelle Urgenda. Et les Pays-Bas ont été condamnés aux Pays-Bas à prendre des mesures sérieuses. Ça continue aux États-Unis, Massachusetts, où des enfants ont assigné l'État au motif que eux, enfants, ne pourraient pas vivre normalement et dans un monde décent dans les années qui viennent, ils ont gagné. Vous avez la même chose au Pérou, vous avez la même chose en Asie du Sud-Est. C'est une véritable épidémie qui est en train de se faire dans le monde parce que les gens, vous, moi, nous tous, ceux qui nous écoutent, ont parfaitement compris que c'est leur peau dont il est question. Parce que on dit sauver la planète, mais pardonnez-moi, la planète, elle s'en fiche. Hein. Avec 8 degrés de plus, il y a toujours une planète Terre, mais il n'y a plus d'humains. C'est ça le problème.
C'est dans cet état d'esprit, Corinne Lepage, que vous avez lancé en septembre l'association Justice Pesticides, d'aide aux victimes des pesticides.
Ben oui, parce que je me suis rendu compte, et notamment grâce au procès Monsanto qui s'est tenu à La Haye au mois d'octobre 2016 avec un avis juridique, puisque ce n'est pas une décision d'une cour, mais c'est un avis juridique rendu au début de l'année 2017, que dans le monde entier, il y a des gens qui se battaient, qui ne se connaissaient pas, qui ne savaient pas ce qui se passait. Et donc, je me suis dit qu'il était nécessaire de mettre à la disposition de tout un chacun un site sur lequel il trouverait toutes les décisions rendues dans le monde, les bases juridiques de ces décisions et les bases scientifiques de ces décisions. Et c'est ça, Justice Pesticides, avec un conseil d'administration qui compte des Américains nord et sud et des Asiates et des Européens, bien sûr.
Donc l'idée, c'est de non pas de se passer des politiques, mais d'amorcer un mouvement.
De les pousser à agir. Parce que de l'autre côté, vous avez la pression, effectivement, des lobbies hein, et des multinationales. Eh ben, il faut qu'il y ait une poussée très forte de la part des citoyens.
Cette semaine, dans un article des Échos, Jean-Francis Pécresse proposait un hashtag « Balance ton pollueur », des pratiques de name and shame qui sont à la mode aujourd'hui, comme vous le savez, pour forcer les entreprises à respecter les engagements climatiques. Est-ce que ça va dans le bon sens, ça aussi?
Oui, alors la délation a des limites parce que moi je suis juriste, la dénonciation calomnieuse, je sais ce que ça veut dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a envie de nuire à une entreprise, qui a envie de nuire à quelqu'un, balance une horreur sur lui, sur l'autre, et ça part en vrille, surtout avec les mouvements sociaux. Donc il faut être prudent. Mais le name and shame, bien encadré, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je vais vous dire, je me suis posé une question, et je la pose à nos auditeurs. Il y a eu toute cette affaire des Paradise Papers cette semaine.
Dont on a parlé avant le journal.
Avec ces entreprises qui disent ce que je fais est légal. C'est vrai, c'est légal mais c'est pas éthique. Moi je voudrais savoir ce qu'il y a dans leur rapport sur leur responsabilité sociale et environnementale. Parce que toutes ces grandes entreprises qui nous balancent de magnifiques rapports sur la manière dont ils sont formidables sur le plan de leur responsabilité sociale et environnementale, je voudrais savoir ce qu'ils nous racontent là-dessus. Je pense que ce serait intéressant et de comparer l'un et l'autre. Et ensuite de montrer qu'il peut y avoir une forme, vous savez, on a parlé du greenwashing, eh bien, de l'éthique washing ou quelque chose comme ça, et d'utiliser les rapports de RSE précisément pour mettre un terme à ce type de pratique. Je pense que c'est une voie qui n'est pas tout à fait fermée.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
France Culture, 8h30, tous les samedis à 8h30, c'est l'heure de la revue de presse, un peu décalée, c'est la revue de presse du samedi matin. Aujourd'hui présentée par Émilie Chaudet. Bonjour Émilie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
On commence cette revue de presse, justement décalée, par une revue. La revue Esprit, qui se fait l'écho à sa manière du bilan des 6 premiers mois d'Emmanuel Macron comme président de la République.
La revue, en effet, qui interroge l'héritage politique de la pensée de Paul Ricoeur, disparu en 2005 et dont Emmanuel Macron s'est maintes fois réclamé pendant la campagne présidentielle, en rappelant notamment son passé d'assistant éditorial du philosophe quand il avait 22 ans. La revue Esprit, sans mentionner un seul fait d'actualité politique, pose simplement la question suivante. Des institutions justes sont-elles possibles? Et qu'est-ce qu'une décision juste? Il y est question de solidarité comme d'une responsabilité sociale, ce sont les mots d'Alain Cordier. Une décision sera juste si son fondement est solide, peut-on lire dans son article. Un hommage aux penseurs comme une leçon de politique, leçon qui s'adresse aux décideurs justes que doit être le président. Une leçon politique pour tous, en fait, c'est ce que l'on comprend en lisant les mots du philosophe Olivier Abel, disciple de Ricoeur, cité dans cette revue, que les institutions rompent avec les logiques humiliantes pour donner à chacun de devenir acteur et auteur de sa propre vie.
Autre sujet dans la presse cette semaine, alors on vient largement sur l'affaire Tariq Ramadan et notamment Mediapart, accusé de complaisance envers l'intéressé qui, du coup, a organisé sa défense.
Oui, ça commence par une tribune de François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, un article intitulé « La croisade des imbéciles » où le journaliste revient sur, je le cite, « la campagne nauséabonde où se retrouve la fachosphère, quelques journalistes, chroniqueurs et éditocrates, des responsables politiques d'une partie de la gauche socialiste en ruine et de l'extrême droite », fin de citation. En effet, ces derniers jours, on a pu voir la une de Charlie Hebdo montrant un Edoui Plenel se cachant les yeux, les oreilles et la bouche avec sa moustache, ou encore l'Obs qui qualifie le rédacteur en chef de Mediapart de partisan historique de la dédiabolisation de Tariq Ramadan. On peut donc lire cette tribune de François Bonnet sur le site de Mediapart et visionner cette soirée de discussion animée par les journalistes de la rédaction. Il y est question pendant une vingtaine de minutes des méthodes de travail, du temps long de ces enquêtes sur les violences sexuelles, de la parole délicate, des victimes présumées et de leur entourage. On peut trouver que l'équipe de Mediapart verse parfois dans la surjustification, mais on sent aussi la volonté d'en finir avec ces accusations de complaisance, voire de complicité avec Tariq Ramadan. Mathieu Magnodex, le journaliste de Mediapart qui a signé plusieurs articles sur lui, dénonce notamment, je le cite, une méta-conversation sur des enquêtes que pas grand monde n'a lues.
Et pour finir, un sujet un peu plus léger, celui des prix littéraires, avec dans l'ensemble des réactions mitigées de nos confrères qui remarquent un engouement pour les mêmes auteurs et les mêmes thèmes récompensés cette année.
Oui, des commentaires pas très emballés dans la presse concernant cette édition des Goncourt, Renaudot, Fémina, Flore et j'en passe. L'Obs rapporte cette phrase du jury selon qui cette rentrée littéraire, je cite, fut encore le consternant spectacle d'un art en train de s'étouffer dans sa propre mollesse. Le Huffington Post de son côté nous livre cette question. Les nazis sont-ils le sujet préféré des prix littéraires? Faisant référence au Goncourt, l'ordre du jour d'Éric Vuillard et au Renaudot, la disparition de Joseph Mengele, d'Olivier Guèze. Mais la journaliste Marine Chassaillon s'intéresse plus généralement aux romans primés de ces 20 dernières années. Un quart d'entre eux parle de la Seconde Guerre mondiale. J'ai mentionné les lauréats du Goncourt, du Renaudot. Parlons aussi du roman qui vient de remporter le prix Fémina, La Serpe, de Philippe Génada. Il était le préféré de Virginie Despentes, jurée du Goncourt, qui se confie dans un court papier du journal en ligne Le Parisien. Enfin, pour terminer, et toujours à propos du lauréat du Fémina, l'Obs publie un extrait d'un de ses textes intitulé « Petite femelle » que le magazine en ligne a rebaptisé « Je suis allée à la remise du prix de Flore et j'ai fini à l'hôpital ». Il y est question de verres à moutarde remplis de whisky, d'un pas de danse qui finit sur un brancard, d'un coma éthylique ou d'une crise de folie, on ne sait pas trop, et d'une tentative de marcher droit et la tête haute en rentrant chez soi. Un texte qui peut faire écho au samedi matin de certains de nos auditeurs, peut-être, sait-on jamais.
Merci beaucoup Émilie Chaudet. Une réaction peut-être à ce que
Moi,
vous venez d'entendre.
Corinne Lepage. Moi je serais pas aussi sévère, j'ai lu les deux prix Renaudot et Goncourt. C'est des livres que j'ai beaucoup appréciés, notamment L'Ordre du Jour, parce que, oui certes, ça parle de l'arrivée des nazis au pouvoir. Mais c'est très intéressant parce que c'est un livre qui travaille sur les analogies. Sur le fait que vous pouvez prendre des décisions à un moment donné sans vous rendre compte effectivement des conséquences que tout cela peut avoir. Et alors c'est très intéressant parce que par exemple au début, le début du livre, c'est une réunion vers 1924 ou 25 des grands financiers qui décide de financer Hitler. 1932, je ne sais plus la date, mais enfin, peu importe. Bon, quand des... toute comparaison, etc., etc. Mais enfin, quand vous voyez des personnalités politiques un peu bizarres, si je puis dire, qui arrivent au pouvoir parce qu'il y a derrière elles une force financière et économique gigantesque, vous pouvez vous poser des questions. Et c'est à cette réflexion-là qu'appelle ce livre. Voilà, donc moi je serais plutôt un défenseur et de l'un et de l'autre, et La disparition de Joseph Mengele, c'est un livre très intéressant.
Vous êtes une grande lectrice, dis donc,
Corinne Lepage. Je lis beaucoup. J'adore la lecture. Je pourrais pas ne pas lire 2 à 3 livres par semaine.
2 à 3 livres par semaine.
Ouais. Je suis une très grosse lectrice. Dès que j'ai 2 minutes, je lis.
Alors, la revue de presse d'Émilie Chaudet commençait aussi par la revue Esprit, hein, qui consacre donc un petit dossier à Paul Ricoeur à l'occasion des 6 mois de la présidence d'Emmanuel Macron, dont vous avez été, Corinne Lepage, un soutien actif.
Très actif.
Mais vous êtes assez dur dans votre livre, hein, à bout de confiance de la morale en politique. Vous parlez de la concentration des pouvoirs dans les mains de, je vous cite, la technocratie et l'énarchie. Vous parlez d'un Parlement, je vous cite encore, à l'esprit moutonnier qui manque de professionnalisme. Vous parlez du centralisme du parti. Êtes-vous encore soutien?
Alors, on peut être soutien et être un critique constructif.
Tout à fait. Bon.
Ce livre, il est fait en 3 parties. La première partie est plutôt dithyrambique. Donc, mon éditeur m'a dit, vous ne croyez pas que vous en avez mis un peu trop? J'ai dit non, c'est ce que je pense. Donc, je dis ce que je pense. La deuxième partie, effectivement, est très critique. Elle est très critique, pas tant sur les décisions, parce qu'on peut toujours dire que le code du travail, c'est bien, c'est mal, qu'il y a du pour, il y a du contre, etc. Mais sur la manière dont ça fonctionne. Et la troisième partie, c'est de réaffirmer que je souhaite le succès d'Emmanuel Macron. Je le souhaite parce que d'abord, je pense que cet homme est porteur de quelque chose, et que deuxièmement, son succès, c'est celui de la France. Et que si c'est un échec, c'est le nôtre collectif. Donc je souhaite vraiment son succès. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à changer dans la méthodologie. Vous savez, en ce que vous venez de dire là, je l'ai écrit il y a 2 mois, 3 mois, quand j'ai fini d'écrire ce livre, vous en avez plein la presse aujourd'hui. Je veux dire, par là, c'est tout sauf original. C'est même d'une banalité déconcertante.
Vous vendez bien votre livre ?
Non, non, ben je vais continuer. Ce qui est original dans mon livre, c'est la mise en relation de toute une série d'éléments. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça décrit de notre fonctionnement ? Le fait qu'effectivement, ce soit très petit nombre d'hommes qui prennent les décisions à l'Élysée. Parce qu'il y a une femme là-dedans. Dans l'entourage proche. Qu'est-ce que ça dit sur nous, le fait qu'on a un gouvernement constitué de gens extrêmement compétents, experts et tout ce que vous voudrez, mais il n'y a pas de personnalité politique forte qui soit capable de discuter, si je puis dire, d'orientation politique et de l'exprimer publiquement. Vous avez un Parlement où on peut se réjouir de voir un renouvellement, moi je l'ai vraiment souhaité, mais la contrepartie, c'est que ont été élus des gens qui n'ont qu'une très lointaine idée de ce que c'est que d'être un parlementaire. À la fois dans un comportement personnel, parce qu'on a vu des choses qui, franchement, se font pas, c'est le moins qu'on puisse dire, que dans l'apprentissage plus ou moins difficile du métier de parlementaire. Ensuite, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est une forme de déconstruction des contre-pouvoirs. Moi, j'ai peut-être un côté anglo-saxon, mais je crois beaucoup au pouvoir et contre-pouvoir.
Justice, presse.
Voilà. Et certains m'ont dit, vous êtes critique avec la presse. Je dis pas du tout. Je suis pas du tout critique. Je dis combien on a besoin de la presse. Combien on a besoin d'une presse d'investigation. Combien on a besoin d'une presse qui nous dise ce qui est, qui donne des éléments de fait.
On ne peut pas dire qu'elle soit contrôlée, mise...
Non, la presse n'est pas contrôlée.
Au silence, réduite au silence aujourd'hui.
Non, mais vous voyez bien qu'il y a eu, et je cite les exemples, hein, c'est très concret, des prises de position d'un certain nombre de personnes. Je pense par exemple quand le président de la République, dans son discours au Congrès, dit « bon, ben, on va faire la loi de la moralisation, puis après ça, on passe à autre chose ». Quand à l'époque où il était garde des Sceaux, François Bayrou s'est permis de téléphoner à des journalistes pour leur dire que ce qu'il faisait ne lui plaisait pas, et qu'ensuite il a dit que c'était comme citoyen qu'il l'avait fait. Ensuite, quand vous voyez une information, tout au moins une communication, Et là, la limite entre information et communication devient de plus en plus floue. Où la communication de l'Élysée l'emporte sur l'information. Les images sont des images Élysée. Moi, je suis toujours abonnée au flux En Marche, Emmanuel Macron, etc. On voit bien que les images qui sont données de beaucoup de déplacements du président de la République, c'est l'Élysée, c'est pas les journalistes qui ont été le filmer. Donc, c'est une autre manière d'appréhender l'information qui devient, à bien des égards, de la communication. Or, nous avons besoin d'informations.
Et pour vous, Corinne Lepage, ça n'est pas que La République En Marche a révélé son vrai visage, c'est plutôt qu'elle a, que l'esprit qui prévalait à son lancement a été dévoyé.
Oui. Vous avez rappelé que j'ai fait campagne comme je suis, c'est-à-dire de manière entière. J'ai vraiment voulu l'élection d'Emmanuel Macron, j'ai fait tout ce que j'ai pu, qui était modeste, hein. Enfin, pour que ça aille dans ce sens-là. Ce qui fait que je me suis beaucoup déplacée en région. J'ai rencontré beaucoup de comités En Marche. Et j'ai trouvé chez ces comités En Marche quelque chose de commun. C'est-à-dire que c'était des gens qui ont donné beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voire de l'argent, d'ailleurs, pour s'organiser. Ils se sont auto-organisés. C'était quelque chose qui était totalement, comme on dit aujourd'hui, bottom-up, c'est-à-dire par en bas, rien par en haut. Et aujourd'hui...
L'Académie française va nous en vouloir ce matin.
Oui, mais tant pis.
On n'a pas encore les traductions, désolée.
Je ne sais pas dire autrement. Mouvement du bas vers le haut, si vous voulez. Aujourd'hui, ces gens-là voient un système qui est exactement dans l'autre sens. On en est à une élection... le choix d'un président choisi par le président de la République, élu par acclamation, même pas bulletin secret... avec une liste officielle qui va être élue dans les mêmes conditions. C'est quand même très bizarre et je trouve que ça ne fait pas tellement nouvelle politique et surtout, ce n'est pas du tout l'esprit que nous avons eu au départ avec les comités En Marche, même si moi, je n'ai jamais été En Marche, jamais adhéré au mouvement En Marche. Mais par contre, j'ai beaucoup travaillé pour lui. Ce n'était pas du tout l'esprit qui nous animait.
Alors Corinne Lepage, comme vous le disiez dans la dernière partie, la troisième partie de votre ouvrage, il est question de la façon dont on peut retrouver la confiance. Oui. Hein, votre livre, c'est À bout de confiance. Mais l'ambition est de retrouver cette confiance et de faire en sorte, vous le disiez, que ce soit un succès malgré tout, oui. Ce mandat d'Emmanuel Macron. Par quoi commencer? S'il faut changer les choses, qu'est-ce qui vous paraît le plus important?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on a un gros problème avec notre justice. Il faut savoir que la justice française, elle se clochardise.
Vous pesez vos mots?
Oui, je pèse mes mots. Ça fait plus de 40 ans que j'ai prêté serment, donc je commence à savoir un peu comment ça marche. Nous avons les moyens les plus faibles d'Europe. Nous sommes 27e sur 28 en termes de moyens de la justice par habitant. Avec un Conseil d'État qui juge, donc vous savez qu'on a deux ordres de juridiction, on a la justice judiciaire, on a la justice administrative, un Conseil d'État qui quand même pose beaucoup de problèmes parce que la proximité avec le pouvoir politique est extrêmement grande. Le président de la Cour de cassation réclame un seul ordre de juridiction. Je pense qu'au XXIe siècle, on pourrait passer à un seul ordre de juridiction en France avec une vraie Cour suprême. Et avec des vrais moyens. Parce que les choses traînent en longueur, et notamment les affaires, entre guillemets, traînent en longueur. Traînent en longueur tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens. Vous avez au pôle financier qui est chargé de toutes les affaires, vous avez 25 enquêteurs. C'est rien du tout. Bon. Donc les gens ne peuvent pas travailler, n'ont pas les moyens de donner aux Français la justice dont ils ont besoin. Ça, c'est un chantier
C'est une priorité, certains, puisque vous êtes avocate, certains de nos auditeurs ne manqueront pas de penser ou de vous dire « mais c'est normal, vous prêchez pour votre paroisse, est-ce que c'est le plus important pour la France ?»
Mais c'est très important pour la France parce que la confiance, elle passe par la justice. Quand vous êtes citoyen et que vous ne pouvez pas obtenir justice, que vous avez l'impression qu'il y a de l'impunité, que vous avez l'impression qu'il y a deux poids deux mesures, vous ne pouvez pas avoir confiance. Ça ne marche pas. Et ce que je dis est vrai pour les affaires de santé publique, les affaires de consommation. Vous savez, on peut dire, oui, elle prêche pour sa paroisse parce qu'il y a une juridiciarisation de la société. Moi, j'ai fait du droit bien avant qu'il y ait ça et je terminerai sans ça. Je veux dire, c'est pas mon problème personnel. Le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ont des problèmes de santé, ont des problèmes d'accès à la justice dans tous les domaines. Et ça, c'est quelque chose de très important. Deuxièmement, la manière de prendre les décisions. Le président de la République a ouvert un chantier là-dessus. Je pense qu'il est essentiel. Il faut arrêter que les décisions qui concernent les régions, par exemple les départements, vous avez vu la fronde qu'il y a au niveau local.
Les élus locaux.
Oui. Eh bien, il faut trouver un autre mode de gouvernance au niveau territorial, pas seulement pour renforcer des petits pouvoirs locaux. C'est la grande défense du président de la République et du gouvernement, c'est de dire on veut détruire les petites royautés locales. Oui, peut-être, mais ce qui est important, c'est que les gens sur place puissent participer aux décisions qui concernent leur devenir et le devenir de leur territoire.
Et ce n'est qu'un début. La suite est dans votre ouvrage, Corinne Lepage. Allez, il est 8h46 sur France Culture. Restez avec nous pour l'idée culture. L'idée culture, Corinne Lepage, c'est chaque samedi une personnalité du monde des idées qui nous confie son choix d'une œuvre artistique qui l'a particulièrement marquée dans sa vie. Aujourd'hui, Émilie Chaudet va nous en parler. Vous êtes allée rencontrer qui ?
J'ai rencontré le philosophe Bernard Stiegler, Caroline, qui dirige aussi depuis un peu plus de 10 ans maintenant l'Institut de Recherche et de l'Innovation et qui travaille donc beaucoup sur la manière dont les technologies numériques changent nos pratiques culturelles. Je vous précise tout cela car ce n'est pas sans lien avec ce dont Bernard Stiegler va nous parler. Jusqu'au dernier instant avant notre rencontre, il a gardé le mystère sur l'œuvre qui a marqué sa vie. Il m'a dit vouloir trouver un moment d'évidence pure dans sa vie. Et l'évidence, pour Bernard Stiegler, eh bien ça commence dans une grotte.
Je me souviens très bien de la première fois que en fait, j'ai découvert ces peintures avec le discours qui les accompagnait. Je devais avoir 26 ou 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça. Je ne les ai pas vus véritablement, mais je les ai vus en photo dans l'album Skira, qui s'appelait Lascaux, la naissance de l'art, puisque c'est Skira qui a publié ses peintures de Lascaux avec le texte de Georges Bataille. Donc elles me sont apparues avec Bataille, si vous voulez. Tout est très très émouvant dans les grottes de Lascaux. Et d'abord, voilà, c'est ce que dit Georges Bataille dans Lascaux, la naissance de l'art. Enfin, il ne le dit pas exactement comme ça, mais grosso modo, il dit « Nous commençons là, nous savons que nous commençons là, car ça saute aux yeux, c'est absolument évident. » Bon, ses œuvres sont incroyables, d'une qualité plastique vraiment sans équivalent, je crois. Voilà, par exemple, la qualité des animaux, de la reproduction, le mouvement, la disposition sont quelque chose de saisissant. Et si je m'y intéresse, moi, et c'est pour bien des raisons. C'est d'abord parce que je pense que nous atteignons des limites aujourd'hui. Et si nous voulons voir quelles limites nous sommes en train d'atteindre, il est très important de voir les limites d'où nous venons.
Est-ce qu'il y a une image qui vous revient, qui vous a marqué ?
Il y en a plusieurs. D'abord, il y a une série de vaches qui sont en fait des aurochs, mais on appelle ça des vaches, mais à l'époque, ce sont des animaux qui ne sont pas domestiqués encore, donc ça s'appelle les aurochs, qui sont extraordinaires. C'est du Picasso à la puissance 10. Je veux dire, vous savez, Picasso a peint des corridas, etc., donc des taureaux avec des mouvements de cornes incroyables. Et là, c'est inouï, c'est absolument inouï, la puissance de l'animal. Il y en a beaucoup, des peintures comme ça de ces aurochs. Mais évidemment, dans Lascaux, dans ce qu'on appelle un puits, il y a aussi cette image qui est extraordinairement commentée par Georges Bataille, d'un bison qui a tué un homme. Le bison est splendide, il a d'ailleurs des testicules absolument monumentales qui doivent faire 50 ou 60 centimètres au moins si on les reproduisait dans la réalité. Il est monstrueux, c'est un énorme mâle, voilà, un énorme taureau-bison. Il a tué un homme et cet homme est représenté allongé de manière totalement schématique, c'est comme un dessin d'enfant. Et ça, Bataille en parle très très bien, il dit « c'est extraordinaire de voir à quel point ces hommes consacraient une telle importance aux animaux ». Et avait une image tellement, comment dire, je vais pas dire humble ou modeste, parce que c'est, mais disons, voilà, c'est l'animal qui les impressionne. L'homme, c'est pas ça qui, ils sont pas anthropocentriques.
Quel souvenir aujourd'hui vous en gardez? Pourquoi est-ce que ce sont ces dessins-là qui vous reviennent aujourd'hui quand on vous demande de parler d'une œuvre qui vous a marqué?
Ces dessins dont Bataille parle, donc, et qui sont, ces dessins sont des peintures, qui sont reproduites par l'album Skira, ils me reviennent sans cesse parce que je m'intéresse aussi aux images, aux effets qu'elles produisent aujourd'hui, les images qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux et toutes ces catastrophes, en fait, qui sont produites par ces choses-là. Et je pense qu'il faut revenir au début de cela. Et là, évidemment, chaque fois que je regarde ces peintures, c'est absolument saisissant, c'est absolument évident la puissance de ces images. Voilà, c'est totalement bouleversant. Donc oui, j'y reviens de plus en plus.
Voilà le choix donc de Bernard Stiegler, Corinne Lepage, les grottes de Lascaux, vous les avez visitées?
Non, je dois avouer une grande faiblesse, je ne l'ai pas fait. Ça fait des années que je veux y aller et puis je repousse toujours. J'espère qu'avant de quitter ce monde, j'aurai visité les grottes de Lascaux.
Par et contre, si je puis me permettre, la grotte Chauvet également, aussi. Qui est absolument somptueuse.
Alors, je
encore
connais l'ouvrage dont,
de Bataille, édité chez Skira. Donc.
Et vous voyez, en l'écoutant, je pensais à Pascal Pic.
L'anthropologue. Paléo-anthropologue.
Paléo-anthropologue. Et aux découvertes actuelles que l'on fait sur nos origines, sur nos rapports aux Australopithèques, sur le fait que nous avons, surtout nous, Européens, des traces de Néandertal, alors qu'on pensait que les Néandertaliens ne s'étaient jamais croisés avec Sapiens Sapiens, et ben si, puisque nous avons un petit peu de gènes. Ce rapport, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ça évoque le rapport de l'homme avec les autres espèces et de l'homme dans son environnement. Ça renvoie aussi aux cultures qui nous sont à nous assez étrangères, mais qui sont tellement passionnantes d'Amérique du Sud et de tous ceux et des Indiens et de tous ceux qui ont ce rapport à la terre-mère que nous avons nous totalement escamoté. Je pense que le 21e siècle est un siècle de rappel à nos origines. Même si on est homme augmenté, on est hyper-humanité, tout ce que vous voudrez, on est aussi un rappel à nos origines.
Nous allons continuer avec vous, Corinne Lepage, d'autant que cette matinale est vraiment faite pour vous. Vous nous avez dit tout à l'heure à quel point vous étiez une grande lectrice. Nous avons parlé d'un livre que vous connaissez, celui de Georges Bataille sur les peintures de la grotte de Lascaux. Viens rester pour écouter la chronique de Jackie Durand, les mitonnages de Jackie Durand de Libération. Il nous parle à nouveau, lui aussi, d'un ouvrage. Bonjour Jackie Durand.
Bonjour Caroline.
Le poète et le cuisinier, c'est un beau titre ça.
Oui, et on voudrait vous parler aujourd'hui d'un petit bijou de l'édition. Vous avez touché la couverture de ce livre Toilet Rouge là.
Oui, ce n'est pas seulement un beau titre, c'est un très beau livre aussi.
Oui, ça vient d'être publié aux éditions de l'Épure et ça s'appelle « Recette pour un ami » par Raymond Oliver et Jean Cocteau.
On connaît tous Jean Cocteau, peut-être un peu moins Raymond Oliver.
Bah oui, Jean Cocteau, poète, cinéaste, disparu en 1963. Mais là, on vous parle d'un temps que les moins de 50 ans n'ont pas vécu. Et Raymond Oliver, et ben en fait, c'est un monsieur qui était né en 1909, qui était un grand chef étoilé. Et dans les années 50 et 60, il s'est fait connaître comme étant le premier cuisinier, on va dire, cathodique, puisqu'il a lancé une émission qui s'appelait « Art et magie de la cuisine ». C'était bien sûr en noir et blanc, sur la première chaîne. C'était en direct, rue Cognac G. Et c'était animé avec une speakerine de l'époque qui s'appelait Catherine Langeais. Et en fait, il racontait des recettes avec une sorte de bienveillance et du souci du détail qui franchement nous épatait à l'époque. Et puis, tiens, allez sur les archives de l'INA, vous verrez, il y a notamment une recette quasi homérique de crêpes avec force de liquide alcoolisé, de l'anisette, du rhum, de la bière. Mais tout ça est très gourmand et semble en tout cas très très bon. Mais surtout Raymond Oliver, il fut aussi le chef du Grand Véfour.
À Paris?
Ouais, belle table, grande table, vieille table puisqu'elle remonte au XVIIIe siècle et qu'elle est située dans ce quartier du Palais Royal. Et on y trouve encore dans cet endroit des bois sculptés, des miroirs qui ont vu passer comme ça Bonaparte, Victor Hugo, Georges Sand, Raymond Oliver. Et en fait, Raymond Oliver, il a repris cette maison en 1948 et il s'est lié d'amitié avec un habitant du quartier qui s'appelait Jean Cocteau. Une autre habitante s'appelait aussi Colette. Et puis, il y avait l'écrivain Emmanuel Berle. Et en fait, le Grand Véfour, c'était un peu la cantine de tout ce petit monde, lettré et surtout très, très gourmand. Et c'est tout cela qui mijote dans « Recette pour un ami » qui a été publié une première fois en 1964 à 800 exemplaires par la galerie Jean Giraudoux. Ce livre, en fait, c'est un arrêt sur image sur une époque, le Palais Royal, des années 50, et sur la cuisine de l'après-guerre, avec un vrai gourmet qui était Jean Cocteau. Jean Cocteau, il adorait la cuisine, par exemple, de Fernand Poing, grande figure de la cuisine du XXe siècle. Alors, il a beau se défendre d'être gourmand et goinfre, il aime bien manger, et notamment, il aime bien aussi, par exemple, les cocktails. Cocteau disait « Cocteau n'est pas le pluriel de cocktail ». Et dans le livre, il a fait un dessin où il dit « Si je n'avais pas été académicien, j'aurais peut-être été barman ». Il aimait par exemple le cocktail d'huître avec ketchup, huître, jus de citron et cognac. Et dans ce très joli bouquin, il est aussi question du homard grillé Orphée. Car en fait, pour le tournage du film de Jean Cocteau, le Grand Véfour fut mis à contribution. Et Raymond Oliver, il créa cette recette de homard qui, je précise, se fait avec un homard femelle. Et le corail du homard, et aussi du beurre frais. Et puis, il cuisinait aussi des soles frites au beurre noisette pour Jean Cocteau. Et en fait, tout ce petit monde s'engueulait beaucoup sur la taille de la sole. Jean Cocteau lui disait « Moi, j'aime les petites soles ». Et Raymond Oliver disait « Mais non, mais la grande sole, c'est très très bien ». Et il cuisinait aussi une recette qui vraiment, là, nous épate, nous, parce que c'est la simplicité qui est quelquefois la complexité aussi de la cuisine. L'épure, va-t-on dire, c'est des coquilles Saint-Jacques à four vif, sans rien, ni sel, ni poivre, ni huile, ni beurre, rien, quoi. Et c'était la recette qu'il faisait à Cocteau. Et aussi, il y a ce passage délicieux où il raconte que Cocteau, apparemment, il avait un peu de cholestérol. Alors, il fallait un peu tricher pour qu'il puisse manger des choses qui lui étaient interdites. Et vous savez quoi? Par exemple, le boudin noir, il en glissait comme ça un petit peu, des petits morceaux avec de l'oignon, dans un patado Jean Cocteau. Et comme ça, ma foi, l'honneur était sauf. Alors, au-delà de ce livre sur l'art et le savoir d'un grand cuisinier, on est vraiment impressionné par la qualité de l'écriture de Raymond Oliver. C'est à la fois lumineux, minutieux et nourri d'une culture encyclopédique sur la gastronomie. Raymond Oliver, on le sait peut-être pas, mais il a publié plus d'une vingtaine de bouquins et il adorait les livres. Lui qui avait arrêté l'école à 14 ans pour rentrer en apprentissage, il était capable d'insomnie pour réfléchir comment se procurer un livre et c'est ainsi qu'il a vendu une maison pour s'offrir le Viandier de Taïwan, un très très vieux livre de recettes du Moyen-Âge.
À quelle maison d'édition peut-on trouver ces recettes pour un ami?
C'est aux éditions de Libure. C'est un très beau cadeau à la fois pour les bibliophiles, pour les gastronomes, et c'est à mon avis un livre qui sera indémodable.
Oui, on a bien compris aussi, Jackie Durand, à quel point vous êtes intarissable sur ce livre de Raymond Oliver avec les illustrations de Jean Cocteau. Mais je voudrais pas que cette chronique fasse en sorte que nous puissions entendre le choix musical de notre invité, puisque c'est la tradition, Corinne Lepage. Nous demandons à notre invité de terminer l'émission avec son choix musical. Vous nous en aviez donné deux, nous en avons choisi un, le voici.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleurs.
Barbara, qui fait l'objet d'une très belle exposition à la Philharmonie de Paris en ce moment. Barbara, mais cette chanson-là en particulier, L'Aigle Noir.
Je dirais que c'est le mélange des deux. C'est la chanteuse pour laquelle j'ai une très grande admiration. Et puis je trouve que c'est une femme qui a eu une vie absolument incroyable. Et cette chanson qui m'émeut toujours autant chaque fois que je l'entends, que je l'écoute par d'abord la musique qui est très belle, cette voix de Barbara et ce que raconte de sa vie cette chanson qui raconte un épisode très particulier de sa vie, en réalité des rapports très compliqués qu'elle a eu avec son père.
Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'être venue dans ces matins du samedi de France Culture. À bout de confiance de la morale en politique, c'est le livre que vous publiez aux éditions Autrement. Merci à Camille Ferret qui m'a aidé à préparer cette émission cette semaine. À Doria Zénine qui l'a réalisé. À la technique aujourd'hui, c'était YouTube Diego Ac Lopez. Dans un instant, c'est les informations suivies de répliques par Alain Finkielkraut.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente We Blew It, un film de Jean-Baptiste Torré.
You know that saying, sex, drugs and rock and roll?
Comment l'Amérique est-elle passée d'Easy Rider à Donald Trump? Que sont devenus les rêves et les utopies des années 60 et 70? Du New Jersey à la Californie, ce road movie mélancolique dresse le portrait d'une Amérique en pleine campagne électorale et donne la parole à des cinéastes connus et méconnus ou à l'homme de la rue.
If you vote for Hillary, and if I was in the Marine Corps serving you again, I would not fight for you.
We blew it.
Because you don't deserve it.
Actuellement au cinéma, un film France Culture.
Il est 9h sur France Culture, l'heure des informations.